RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui Joël Dagossiri, la coach de vie, la fonctionnaire Zora Bitan et l'éleveur de bovins Didier Giraud. Ah, on a vraiment hâte de quitter notre studio parisien et de repartir sur les routes. Et on commence demain, première étape de notre tournée spéciale municipale, Marseille. Marseille demain, nous serons au palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière, avec Abel Boyi, Antoine Dierce et Laura Varto-Martinez. Et vous, bien sûr, hein, on vous y attend. C'est ouvert au public pour assister à l'émission et rencontrer vos grandes gueules. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr. Nous serons ensuite la semaine prochaine à Lyon. C'est lundi prochain, le 24 février, au Palais de la Bourse aussi, hein, 20 rue de la Bourse. Il y aura Barbara Lefebvre, Bruno Poncet et Emmanuel Devilliers. Et puis nous irons aussi à Nice, chez Alain Marchal, à la Villa Masséna. Il y aura notamment Charles et toi, Joël, à Nice.
Oui, parfait.
Ah, ah, comme par hasard, la Côte d'Azur.
Oui.
Ah, tiens, ça m'étonne pas de toi.
Hein.
Bah oui, tu n'as pas choisi.
Je suis très heureuse
oui, oui, oui.
D'aller voir les sudistes.
Tiens, début mars. Bon, en ce moment, il ne fait pas beau nulle part, mais enfin, peut-être que le soleil
beau,
un jour. Va réapparaître en France. En tout cas, on est content d'aller vous voir. Marseille, Lyon, Nice, trois étapes pour ces municipales. On va parler bien sûr concrètement de ce que vous attendez pour ces municipales, la sécurité, l'emploi, la circulation, et puis ici, ce qui va se passer dans ces grandes villes, parce que ce sont trois villes où tout peut basculer. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage à Nice qui met désormais Éric Ciotti à 10 points devant Christian Estrosi au premier tour.
C'est un peu la surprise.
À Paris, on en parle. À Marseille, le RN menace de prendre la ville face au socialiste Benoît Payan. Et à Lyon, c'est Jean-Michel Aulas qui a le vent en poupe. Donc c'est vraiment des îles. C'est des villes où il y a des enjeux très importants. Donc ça va être passionnant à suivre avec vous, bien entendu. Mais d'ici là, l'actualité.
Estrosi, c'est proche de Macron.
Tu crois que dès qu'on est proche de Macron, c'est pas bon?
C'est un peu une machine à perdre, pas vraiment. Déjà, même ceux qui sont proches de Macron sont en train de se recaser déjà maintenant.
Au niveau local, c'est peut-être un peu différent parce que.
Oui, on vote aussi pour un maire.
Ouais, il est quand même bien.
Pour ce qu'il a fait, réalisé. Bon, bref, il y aura des choses à dire et on vous y attend. Je voudrais maintenant qu'on parle de ce qui s'est passé à Nice. Vous vous souvenez du quartier Pise à Nîmes, décidément, du quartier Pisevin, qui malheureusement fait souvent parler de lui pour de mauvaises choses. Et là, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est un enfant de 8 ans qui a été fauché par une voiture sur le chemin de l'école à un arrêt de tram sur un passage piéton. Le conducteur qui l'a fauché était mineur, 17 ans sans permis. Donc imaginez bien la scène, il y a cet enfant qui va à l'école, 8 ans, et tout d'un coup il se fait renverser par un véhicule qui va trop vite, conduit par un conducteur qui n'a que 17 ans, le véhicule loué à Marseille, le conducteur mineur, déjà connu de la justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il avait d'ailleurs été condamné à une mesure éducative le 10 juin 2025. Il était sous le coup d'un contrôle judiciaire jusqu'à une comparution prévue le 5 octobre devant le tribunal pour enfants pour des faits de même nature relatifs aux stupéfiants. Vous imaginez, donc mesure éducative le 10 juin et on le convoque plus d'un an après. Donc entre-temps, ce jeune mineur visiblement a continué son activité, semble-t-il, de dealer. En louant une voiture, une Audi, qui allait trop vite. Il n'était pas tout seul d'ailleurs, ils ont été plusieurs à être interpellés. Et on a donc un véhicule qui arrive, qui venait de griller un feu rouge, et qui, d'où par la gauche, à contresens de la circulation, et qui percute donc très violemment cet enfant avant de prendre, bien sûr, la fuite.
Bien sûr.
Zora Bitan.
Pour les parents, ça doit être horrible. J'imagine même pas ce qu'ils doivent vivre. Parce que c'est tellement violent, injuste et inacceptable. Donc j'ai une pensée pour eux. Et je suis révoltée parce que, regardez où on en est. C'est quand même dingo. Une espèce d'idéologie laxiste qui tue, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est une idéologie laxiste et un système judiciaire qui marche à l'envers. Ce gosse-là, qu'on chope à faire du trafic de stupéfiants ou je ne sais quoi encore. Au premier acte de délinquance, quand on punit, qu'est-ce qu'on fait ? On le sauve, lui-même, déjà. Déjà, on le sauve. On lui construit un avenir un peu meilleur, quand même. On le fout sur des rails, il apprend un métier, il retourne à l'école, il est encadré. L'État investit, c'est-à-dire, elle dit, je le fous pas en prison, mais je cadre. Tout de suite, premier acte de délinquance, je punis. Je punis dans
elle
un cadre...
Elle a été punie, enfin, il y a un contrôle judiciaire.
Non, mais ça, c'est du bidon, ça.
Ça l'empêchait pas de continuer.
Ça, c'est bidon, ça, c'est vraiment... C'est parce que notre système, il est vraiment...
Pardon, mais il a 17 ans, il loue un véhicule, il a déjà rien
pour
de...
Déjà, commencer, qui l'a loué ?
Quel est
quel est l'adulte qui a loué pour lui ? Parce qu'à 17 ans, tu peux pas louer un véhicule. Déjà pour commencer, quel est l'adulte qui a loué ? Donc, imaginez la scène. Moi, je suis au pouvoir. Voilà ce que je fais. Premier acte de délinquance. Déjà que je donne le ton. Premier acte de délinquance.
Punition tout de suite.
Punition tout de suite.
Oui, mais alors immédiate, parce que là, tu vois, il est convoqué des mois après.
Non, mais punition tout de suite. Pourquoi ? Parce que tu protèges l'enfant, le jeune, l'ado. Tu le protèges. Déjà, tu mets un stop net. Tu fabriques entre guillemets un citoyen qui va avoir du bénéfice pour lui, c'est-à-dire qu'il va prendre un métier, il va retourner à l'école. Tu l'exclus de la société et quand tu l'y remets, normalement, t'as fait ce qu'il faut pour que ce soit un citoyen qui soit riche pour lui, pour la société et pour tout le monde. Non, nous, on punit rien du tout. C'est-à-dire que les mômes, ils arrivent à la 25e fois, c'est fini. Ils ont déjà commis des dégâts immenses. Et ça peut plus durer, ça.
Lui, déjà, c'est trop tard. Il va aller en prison. Je vois pas quel est son avenir.
C'est insupportable.
Quand j'ai vu cette affaire-là hier soir, j'ai fait le parallèle avec Naël, quoi. Je me dis, tu vois, finalement, on est tombé sur ce pauvre policier. Heureusement qu'il a tiré le policier, parce que c'est peut-être comme ça que ça aurait fini. Et puis celui-là, s'il avait croisé le même policier qu'il y avait en face Naël, qui avait tenté
de l'arrêter. D'ailleurs que Naël.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, le parallèle, il est là, quoi.
Oui.
L'affaire Naël. Si
les
le
ados,
policier
ados,
tire pas,
ados.
Ça finit comme ça, quoi. Voilà.
C'est rien déjà. C'est
si il y a eu des femmes, il y a eu des accidents de gens qui ont
été arrêtés. Théories.
Il y a eu des morts.
Oui, non. On peut faire des théories. Je me suis dit, si celui-là il avait croisé le policier de Naël, il y aurait peut-être des émeutes, mais le gamin de 8 ans, il serait vivant. Voilà. C'est ça que je me suis dit. Mais c'est sûrement pas entendable pour tout le monde.
Alors, c'est vrai quand même qu'on n'a pas de tweet sur un petit ange est parti trop tôt. Là, on a un enfant de 8 ans qui est mort, fauché par un trafiquant de drogue
de
17 ans.
Tout le monde s'en fout du gamin de 8 ans.
Et là, tout le monde s'en fout. Pardon, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'émeute. Il n'y a rien. C'est vrai que.
Pour moi, le parallèle, il y est là.
C'est vrai qu'il y a quand même. C'est bizarre. C'est-à-dire que notre émotion, alors, on est très sélective.
C'est marrant comment vous voulez régler les affaires. Les affaires de la France, il faut soit des hommages à l'Assemblée nationale, soit des émeutes. Moi, je considère que les affaires de la France doivent être réglées par les institutions, par la justice, par les lois, et notamment par les moyens qu'on met dans ces institutions, telles que la justice. Quand tu prends un dossier et que tu dois le traiter 8 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a des affaires qui sont jugées 9 ans après les faits. Et ça, c'est pas un problème de Naël ou de la police ou des députés à l'Assemblée nationale. C'est un problème d'argent. Il faut dire, excuse-moi.
Non,
si.
Fillon, il a été jugé rapidement.
Si.
Par
si,
exemple.
Si, si. Oui, mais ça
parquet,
peut pas.
Le parquet a déjà perquisitionné le bureau de Jack Lang.
Oui, mais il y a aussi des affaires. Il n'y a pas que Fillon. Il y a aussi des affaires qui sont jugées en mandat de dépôt et hop, en prison. Moi, ce que je cherche pas des choses circonstancielles. Je veux que structurellement, nous ayons une justice qui puisse juger. Il y a une question de moyens, déjà de un, j'ai pas terminé. Et puis, il y a une question aussi d'inverser notre façon de penser. Zora, elle a complètement raison. C'est-à-dire qu'on a une façon de penser qui est un peu à l'ancienne. À l'ancienne, c'est première sommation, deuxième sommation, cité passage,
on faire exactement
etc.
L'inverse.
Attention, on n'a plus affaire au même type de délinquance. On n'a plus affaire.
Direct, tout de suite.
Donc, il faut inverser. Je suis désolée, mais il va falloir revoir notre psychologie. Il faut inverser la façon de punir. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite, montrer
c'est
que
pédagogique.
Ça ne se fait pas. Et il faut retirer le jeune de son milieu, d'origine.
Nous, en tant que parents,
tu vois, moi je te dis que à chaque fois j'aurais la rage si la personne qui s'attaque à mon enfant a déjà été identifiée par l'État et déjà passée dans les mains de l'État. Je peux même pas te dire le niveau de rage que j'aurais. Donc l'État, lorsque quelqu'un, s'il est pas identifié.
Ok, d'accord. Mais lorsque quelqu'un est passé entre ses mains et que après ça, cette personne-là tue, moi, là, je veux dire, là, on bah est. Oui. Alors, je veux dire, il n'y a pas d'excuse.
Bah, je voudrais qu'on donne la parole au 3216 à Kader Dali qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Du côté
bonjour
de
Kader.
Oui, bah écoutez, du côté de Nancy, on a vécu la même chose il y a 2-3 ans où un jeune avait loué une voiture de Pologne et d'Allemagne et a fait des rodéos en plein quartier et a tué une personne de 63 ans, je crois que son épouse régulièrement, il lui est rentré dedans alors qu'il était en train de conduire et lui, il était en train de faire des rodéos sur la voie propre du bus. Cette veuve, je la croise tous les jours maintenant à l'arrêt de bus parce qu'elle est un peu tétraplégique, c'était son mari qui l'a déposée régulièrement à droite à gauche. Les jeunes ne font que ce qu'on leur permet de faire.
Exactement.
C'est ça la règle. J'ai 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les quartiers sensibles, dans le milieu HLM. Je connais par cœur ce phénomène où on va aller pleurer, on va dire le pauvre de 8 ans, rebelote dans 6 mois, rebelote dans 3.
Bien sûr.
En France... je sais pas, moi quand je vois, je parle de l'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie, on dit qu'il n'y a pas de droit de l'homme, mais l'homme il file droit parce qu'il sait ce qui lui attend après. Pourquoi en France un gamin se permet de faire des rodéos dans les quartiers? Déjà c'est une sorte de double peine, on a l'impression d'être dans des quartiers de zone de non-droit. Et en plus, on a ces phénomènes de véhicules en location qui proviennent d'Allemagne et de Pologne, qui sont là à nous faire des rodéos devant chez nous, ou devant les jeunes des quartiers, ou devant les mamans qui ramènent leurs enfants à l'école. Passage piéton, pas de passage piéton, ils en ont strictement rien à faire. La police le sait, l'État le sait, les élus le savent, tout le monde le sait. Et là, on est là à faire des émissions.
Tout le monde serre les fesses en espérant qu'il n'y a pas de drame.
Kader Dali, vous dites quelque chose de très important et en même temps de très intéressant, l'histoire de la double peine. C'est-à-dire que les habitants des quartiers populaires qui sont déjà punis par l'enclavement, l'exclusion, la stigmatisation, quand on leur parle de sécurité, bah c'est un truc de facho, alors que c'est les premiers.
Je parle pas de vous, Kader Dali. Vous avez raison.
Sans délai, les
jeunes des quartiers, les familles des quartiers, ils adorent la police. Ils aimeraient les voir plus.
Exactement. Les CRS, quelqu'un qui dit les choses.
Ils leur feraient un bisou sur le front tellement on les voit pas dans
mais
les quartiers.
Mais oui.
On les
pourquoi
voit que quand
non mais là on le
voit. Kader Dali, parce que 90% des habitants des quartiers aspirent à vivre en paix.
Surtout
que la racaille en veut rien.
Tous les parents avec cette histoire sont terrorisés.
Bien sûr.
En disant mon enfant part le matin à l'école et je vais peut-être recevoir un coup de fil pour dire qu'il a été fauché par un débile qui roule sans permis à 17 ans.
C'est quand même le trafic de drogue. On est sur une zone de non-droit à Nîmes.
Vous savez que les mamans, quand leurs enfants sortent, ils n'ont même pas peur que leurs enfants deviennent des délinquants. Ils ont peur soit que tomber sur un toxicomane au pied d'immeuble, soit de se faire écraser par un fou furieux, parce que en hiver c'est les voitures, en été c'est les motos, mais ou les quads, ou je sais pas. Mais la police fait son job, en vrai. Franchement, la police, je leur tire mon chapeau, parce que les pauvres, eux, ils arrêtent, ils font, et derrière la justice, elle est d'une main très molle, mais trop molle. Alors pourquoi ? Parce qu'on va trouver 1 milliard de circonstances atténuantes, sauf qu'on en est à la 20e, au 20e délit. Donc au bout d'un moment, moi j'ai 5 enfants, j'ose espérer qu'au bout d'un moment, quand ils font une bêtise, ils soient punis. Si c'est pas moi qui les punis, j'ose espérer que la justice ou que le professeur ou que ceux qui sont dehors, qui sont des adultes comme vous et moi, à un moment donné, qu'on joue nos rôles d'adultes.
Mais vous êtes la voix du bon sens, en fait. C'est juste du bon sens.
Ceux qui sont les juges, qui sont payés, à un moment donné... Il sanctionne pas, je vous assure qu'on le retrouve. Moi, j'en ai vu, il y en a un pareil qui faisait des rodéos, il s'est mis une balle lui-même dans le ventre à Nancy. Une balle lui-même. Il attendait un autre pour un règlement de compte, c'était un fou furieux du quartier, il s'est mis une balle dans le ventre. Mais on se dit à un moment donné, il vaut mieux qu'il se la mette à lui que quelqu'un d'autre. Mais on se dit à un moment donné, que fait la justice? J'ai rien contre la justice, mais à un moment donné, on a mis des lois en face de la délinquance juvénile qui n'est plus adéquate.
Je pense que les juges ont une idée assez légère du milieu dans lequel certains jeunes baignent et de l'endoctrinement.
Parce que quand t'es à 17 ans, quand t'arrives devant le juge, t'es déjà endoctriné. Ouais. Et c'est pas qu'une question de secte ou d'islam radical, etc.
La délinquance,
la façon de percevoir la vie, c'est un endoctrinement. Et donc, ces juges-là se disent, ah ben, on va juste lui dire, attention, la prochaine fois, c'est la prison. Et puis, il va comprendre, on lui met un contrôle judiciaire et il repart dans le milieu dans lequel il se trouve. Mais ça, c'est terminé.
Et si vous je vais terminer mes propos. L'endoctrinement, vous savez où il est maintenant ?
Mm-hmm.
Ce jeune qui est en train de rouler comme un taré et tous ces jeunes qui roulent comme des dingues, l'endoctrinement, il est sur Snapchat, TikTok, etc.
Ça veut dire que
maintenant, leur gourou, mais c'est même plus les religieux, parce que les religieux les fuient, ces gens-là. Je vais vous dire que les religieux des mosquées ou ailleurs, ou qui que vous le voulez, les fuient, ces jeunes-là, parce que plus personne arrive à les avoir, sauf Snapchat et TikTok, parce que quand ils font leurs bêtises, le but, c'est d'avoir le plus de vues possible.
C'est même pas
d'avoir la bénédiction de l'imam ou la bénédiction de leur père ou de leur frère ou de leur mère ou de la réussite sociale ou autre. C'est avoir des vues. Et les vues, c'est faut dépasser 10 000 parce qu'on est payé, parce que voilà. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que les politiques descendent dans l'arène et voient, parce que moi j'appelle ça une arène, et savent ce qui se passe en bas, là. Parce que, comme dirait Raffarin, la France d'en bas, elle est déconnectée totalement de la réalité de ceux qui sont soit dans les bureaux, soit dans la justice.
Merci. Voilà. On va s'arrêter là, Kader Dali.
Mais on a bien compris
que c'est un sujet qui vous tenait à cœur.
Quelqu'un de terrain, non, mais c'est surtout quelqu'un qui vit.
C'est pour ça qu'on lui a laissé la parole. Merci, Kader Dali, d'avoir appelé depuis Nancy. Bonne journée à vous. Et on va voir quelles sont les suites judiciaires apportées à cette affaire. Enfin, maintenant qu'il a tué quelqu'un, là, on sera plus dans la mesure éducative, même s'il est mineur. Donc, il sera jugé comme un mineur. Sauf si l'excuse de minorité est levée, mais elle est très rarement levée. Mais ça, c'est un autre débat. Dans un instant, vous savez que l'école, c'est a priori pour apprendre à lire, écrire, compter, et bien aussi manger. C'est ce que souhaitent des députés emmenés par Olivia Grégoire, la macroniste, qui voudrait une éducation, des cours d'éducation alimentaire, apprendre aux enfants à bien manger dès la maternelle jusqu'au CM2. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est pas tout simplement le rôle des parents? Nos parents qui nous ont appris à manger et parfois à faire à manger. Bon, ben, on en parle avec vous. 32-16, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Didier Giraud est là avec Joël Dagosséry et Zora Bitan. Alors à l'école, vous le savez, il faut apprendre à écrire, à lire et à compter, et puis bientôt à manger. C'est en tout cas ce que souhaitent des députés. Emmené par Olivia Grégoire, députée macroniste, à l'Assemblée, un texte qui prévoit, sur la base du volontariat, 3 séances minimum par an d'éducation à l'alimentation vient d'être adopté. Alors maintenant, il faut que le Sénat valide ce texte. L'idée, c'est de partir du constat que près d'un adulte sur deux est en situation de surpoids. L'obésité a été multipliée par 4 chez les plus jeunes en moins de 30 ans. Il faut donc apprendre à nos enfants à mieux manger, et ça passe donc par l'école, selon Lydia Grégoire, qui voudrait 3 séances minimum par an, de la petite section de maternelle au CM2. Alors, les mauvaises langues rappelleront à Lydia Grégoire que ça existe déjà, en fait, dans le code de l'éducation. A priori, ce code de l'éducation prévoit, en théorie, une information et une éducation à l'alimentation. Donc, on est peut-être en train de faire une loi, alors qu'il y a déjà une loi qui existe, mais qui n'est pas appliquée. Bref, ça, c'est de la tambouille politique, mais sur le principe, est-ce que c'est vraiment à l'école d'apprendre à nos enfants à bien manger? Est-ce que c'est pas le rôle des parents? Parce que l'éducation, c'est des parents qui te font à manger, qui t'apprennent à faire manger, qui te font des bons petits plats. Ou est-ce que maintenant, il faut en passer par l'école? Qu'est-ce que vous en pensez, le 32-16 de l'habitant?
D'abord, c'est surtout, on revient à la question de la famille et de la parentalité. Et quand un gouvernement, en tout cas un État, considère que la famille fait partie d'un domaine important, il organise justement tout ce qui peut construire la famille, tout ce qui peut aider la famille à se construire. Je ne parle pas des familles qui marchent bien, il n'y a pas de problème, mais on sait qu'il y a énormément de familles monoparentales et il y a un tissu associatif extrêmement important en France qui assure justement un certain nombre d'activités comme la nourriture, le partage de repas, faire à manger, etc. Aujourd'hui, on sait que l'école va très mal. elle va très mal. Pourquoi ? Parce que les enfants arrivent en sixième sans savoir lire, écrire, compter. C'est une priorité. Le harcèlement, il est quasiment national. C'est-à-dire, il n'y a même plus un territoire qui est épargné. L'autorité des enseignants, elle est mise à mal. Et il me semble que déjà, si on arrive à être au top, en tout cas à avoir un très bon résultat sur les fondamentaux, c'est-à-dire une école sans violence, des enfants qui savent lire, écrire, compter, un esprit critique à qui on leur qu'on leur apprend à développer, on pourra peut-être éventuellement s'occuper d'autre chose. Parce que le problème, c'est que ici, on fait que des annonces. Chaque annonce, non seulement elle ne produit absolument rien, et que le terrain est en, et voilà, et que le terrain est en friche. C'est-à-dire, c'est comme si t'allais planter une petite fleur au milieu d'un champ. D'accord. Où il y a plus rien. Et en fait, j'en ai ras-le-bol de ça. Ça me saoule parce que les gosses arrivent à les. Alors, moi, mes petits enfants, je vous jure.
Oui, là, concrètement, comment on fait? Parce que.
Eh ben, on s'occupe des fondamentaux. On laisse l'école faire son boulot, instruire. Point. Arrêtez d'en rajouter des tonnes.
Mais s'il y a de plus en plus de mômes obèses.
Santé, prévention, rien à voir avec l'école.
S'il y a de plus en plus d'enfants obèses, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien nourris à la maison, ils ne mangent pas bien.
Oui, bah,
ils mangent
n'importe
quoi. Je me rappelle aussi des photos d'Aléno, ils ne mangent peut-être pas bien à l'école non plus. Quoi.
Oui, ça, c'est pas faux non plus que ce qu'on mange à l'école.
C'était pas Aléno, c'était Marc.
C'était pas Aléno, c'est.
Enfin,
c'est
un chef qui avait publié.
C'est Saban. C'est ça?
Non, mais qu'importe.
On va retrouver le nom.
Bref, du coup, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, un, c'est pas le boulot de l'école, c'est quand même plutôt le boulot des parents.
Ouais.
Apprenons déjà aux parents à
on peut dans l'associatif dans des choses
et après moi ce qui me gêne là-dedans c'est quel discours va être développé à l'école.
Oui.
Est-ce qu'on va manger
de
la viande?
Parce que je connais aussi aussi des jeunes qui vont à l'école et tout le discours qu'il aurait fait autour de l'écologie, autour de la santé de la planète, autour de et les conséquences qu'il y a sur ce que disent les profs autour de l'alimentation, moi ça me fait pas très plaisir quoi, parce que si c'est pour faire des générations entières de végans, tu vois, ça va tuer mon métier à un moment donné. Et à un moment donné, confier ça à l'école, eh ben moi ça me gêne parce que c'est plus facile d'endoctriner l'école que l'ensemble des parents. Alors qu'il faille sensibiliser globalement la population au fait de recuisiner, de travailler des produits pas hyper transformés et de consacrer du temps à la cuisine, ça pour moi c'est un des rôles de l'État peut-être. Mais
on apprendra quoi précisément dans ces cours?
Bah, en plus, déjà, trois cours par an.
Trois fois par an, je vois pas comment
tu vas. Déjà, bon.
Ce qui est sûr, c'est que pour avoir participé aux semaines du goût, nous, les jeunes agriculteurs, on a longtemps fait les semaines du goût dans les écoles. On sait qu'à un moment donné, par les enfants, tu dessines la société de demain. Et rééduquer les enfants à manger des produits sains, c'est aussi les parents de demain, quoi.
Non, mais et des produits de saison. Non, mais tu peux expliquer aux enfants les produits de saison, les différents aliments, comment associer les choses.
Mais ça, on le fait quand ils sont petits. Moi, j'ai un livre des fruits et légumes.
Tu fais à la maison.
On regarde, voilà.
Je suis fascinée par le fait qu'on n'en a rien à faire des résultats dans la politique. Ce qu'on veut, c'est mettre en place une action. Faire une annonce, faire joli, mais est-ce que ça produit du résultat? Maintenant, on s'en fiche complètement.
On n'évalue jamais d'ailleurs.
Eh ben, on n'évalue pas le résultat et on ne cherche même plus à se dire quel résultat je veux obtenir. Donc, pour lutter contre l'obésité, nous allons mettre trois séances d'éducation alimentaire par an. L'obésité, c'est le quotidien, c'est l'alimentation du quotidien. Donc, l'enfant va arriver à l'école, on va lui dire, écoute, il faut que tu manges des fruits et des légumes, il faut que machin, etc. Il rentre à la maison, t'as le parent qui cuisine autre chose, et tous les jours, c'est comme ça. Et tu penses que ça va changer. Tu penses que l'enfant, avec ses trois séances par an, il va modifier tout un comportement, toute une habitude d'achat, de la façon de faire ses achats au supermarché, etc. Ça va changer quelque chose pour lui. L'enfant dépend des parents. Comment tu vas faire une éducation à un enfant et sans toucher aux parents. En plus, la chose aussi, l'éducation alimentaire, ce qu'il faut dire. Moi, par exemple, j'ai mangé avec les parents, j'en ai pas eu. Et j'ai commencé à m'éduquer parce que j'ai repris le sport depuis plus d'un an. Et donc, ça m'a forcé à m'éduquer sur l'alimentation. Et à comprendre, en fait, les apports, les bénéfices de chaque catégorie d'aliments, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à travers les sciences.
Mais toi, ta fille, par exemple, tu lui apprends à bien manger?
Mais oui, parce qu'en fait, comme j'ai dû m'éduquer Du coup, je lui transmets. Je lui dis, écoute, tu sais, quand on mange, par exemple, quand tu manges du sucre comme ça à vide, t'as un pic de glycémie. Ensuite, tu retombes dans une grosse faim. Donc, je lui explique, en fait, scientifiquement, il est mieux que tu manges d'abord une couche de protéines. Il est mieux que tu fasses un petit déjeuner pas trop sucré, parce qu'en fait, en France, on fait des déjeuners trop sucrés, ce qui n'est pas bon. Et donc, il y a plein de choses que j'ai appris comme ça. Non. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une formation à côté, en marge de... Non. Non, 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 c'est la première fois en 10 ans. Donc, il n'y a pas de raison.
Ah, chouette, tu peux lancer la des tunnels.
Tout à fait. Donc, j'ai le droit à 3 tunnels par an. Non, c'est le contrat.
Il y en a un, tu peux noter.
Non, il n'y a jamais de contrat en ce sens.
Si, on a le droit.
Jean-Christophe est avec nous.
Je suis en retard dans les tunnels.
C'est 25 tunnels par an.
Vous savez que Jean-Christophe, il s'est endormi parce que ça fait 2 heures qu'il attend de prendre le 16.
J'adore.
Jean-Christophe, c'est un ancien chef cuistot. Donc, dans un collège, donc il sait de quoi il parle. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Est-ce que c'est utile, du côté de Toulon, vous les appelez dans le Var, est-ce que c'est utile de mettre en place des cours d'éducation à l'alimentation?
Mais bien sûr que c'est utile. Moi, j'avais mis en place un truc, j'étais intervenu déjà, sur les élèves font leur menu, parce que tout le monde disait c'est dégueulasse, si, on mange pas ce qu'il faut, tatati. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans les classes, j'ai dit qu'est-ce que vous voulez manger? À part des frites et des pâtes. Et on trouvait ensemble des solutions. Et après, les élèves ont apprécié. Quand je faisais des légumes, je faisais des gratins, je mettais en valeur de l'ail, de l'oignon, je mettais des choses qui avaient du goût. Mmh. Et du coup, les élèves se sont intéressés et ont jeté beaucoup moins.
Ce que vous décrivez, Jean-Christophe, il y a déjà un principe élémentaire, c'est que dans votre collège, il y avait un cuistot qui cuisinait des produits.
Voilà. Dans tous les collèges du département du Var, vous avez des chefs de cuisine. D'accord. Et quand j'ai entendu l'autre jour, il y a 2-3 jours, Sodexo et tout ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de Sodexo dans les collèges. Ça, c'est les écoles.
Non, mais
dans
là,
les collèges,
monsieur,
vous avez des chefs de cuisine.
La différence, c'est que Olivia Grégoire propose 3 sensibilisations à l'alimentation. Et vous, par contre, ce qui est totalement différent...
C'est des cours appliqués, ce que vous faites.
C'est des cours appliqués, vous êtes dans la pratique, dans le réel, et ça concerne leur repas du midi. Ça, c'est efficace. Ça, c'est comme la prévention par rapport au corps, parce qu'on parle de l'alimentation, mais de la santé. Mmh. Comment les enfants peuvent apprendre, justement, à connaître leur corps, à faire de la prévention, à se surveiller, etc., pour qu'à l'âge adulte, les gens soient un peu plus... prennent plus soin d'eux et fassent plus de prévention. Et ben, la nourriture au quotidien, ça leur parle. C'est comme si, comme vous êtes en cuisine avec vos enfants ou vos petits-enfants, et qu'on sort tout pour faire un gâteau. C'est pratique. Ah, mais... Quand on dit, venez, on fait le repas ensemble. Mais là, elle propose 3 cours théoriques par an pour apprendre, pour lutter contre l'obésité. Ben, moi, je préfère votre formule à vous.
Oui,
moi,
c'est mieux que rien. Ça met le pied à l'étrier. Peut-être que ça va déboucher sur d'autres projets.
Non, non, lire, écrire, compter. Non, et pas que... savoir lire, écrire, compter en 6e. Vous croyez pas que c'est plus urgent? Non,
attendez, vous aurez très vite une problématique de temps qui va s'installer.
Oui,
vous allez voir,
ça va être comme le sport.
Les 30 minutes de sport, je ne sais quoi, ben vous envoyez pas la couleur, parce que tout simplement
Jean-Christophe, on va écouter ensemble. Merci d'avoir appelé. On va écouter Stéphanie qui nous appelle parce qu'elle est instite et elle travaille sur l'alimentation avec ses enfants. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Donc ça veut dire qu'on peut le faire déjà sans de nouvelles lois.
Déjà, exactement. Ça fait partie du programme en fait de toute la découverte du monde.
Vous confirmez en fait que ça fait déjà partie du programme. Donc on est en train d'inventer les choses qui existent déjà. C'est formidable.
Exactement. Pour faire une annonce.
Voilà, et donc justement, là, ça fait plusieurs années que je travaille avec ma classe de CP sur les différentes familles, notamment d'aliments. On apprend ce qui fait grandir, les aliments qui font grandir, ceux qui donnent de l'énergie, ceux qui sont importants, vous savez, pour lutter contre les petits virus. Et chaque matin, on lit le menu, et ça nous permet de voir un petit peu ce qu'apporte chacun des aliments. Et notamment, en tout cas pour les enfants que j'ai, qui ont 6-7 ans, tous les aliments qui font grandir, et après chaque repas, ils viennent me voir en me disant, j'ai pris mon yaourt, j'ai pris mon morceau de fromage. Et vous savez, je les mesure en fait tous les 3 mois. Et ils se rendent compte aussi de
que ça marche.
Voilà, des effets en fait de chaque famille. Et même par rapport à la consommation de sucre, vous savez, et tout ce qui est aussi sensibilisation, vous savez, de la dentition, ils sont très réceptifs, ils écoutent et ils font vraiment ce qu'il faut. Donc je trouve que plus on les sensibilise jeunes et plus les effets
Ils ont quel âge, vos enfants?
Alors ils ont entre 6 et 7 ans, voilà.
D'accord.
Oui, mais Stéphanie. Oui. Stéphanie, ce que vous présentez comme outil pédagogique, c'est génial, c'est tous les jours. Et vous venez de confirmer que ça existe. Et donc, Olivia Grégoire propose un plan, voilà, avec 3 séances par an. Est-ce que vous croyez qu'on a mobilisation des cabinets, de l'administration, d'une loi, de l'Assemblée, pour faire ce que vous faites tous les jours, honnêtement?
Non. Et je pense que c'est justement ce qu'on fait tous les jours qui porte, en fait.
Mais exactement. Et d'ailleurs, la société, elle tient par des gens comme vous.
Ça n'aurait pas d'utilité. Enfin, en tout cas, une utilité plus limitée. Voilà.
Mais vous savez, Stéphanie, la société, elle tient. Parce que des gens comme vous, parce que des enseignants, parce que des artisans, parce que des gens qui sont ancrés dans la vraie vie réelle font tenir debout. Et votre initiative, comme le chef cuisinier juste avant vous, et on en a tous les jours au GG, c'est la France qui fait. Et la France qui fait.
Pas besoin de nouvelles lois.
Elle n'a pas besoin de la France qui. La France des tableaux Excel.
Sur la lutte contre l'obésité, moi je considère que j'ai plus d'influence, par exemple, sur le poids de ma fille que ce qu'elle mange à l'école à midi.
Exactement.
Donc oui, elle mange à la cantine à midi. Mais tout ce qu'il y a dans mes placards, les habitudes qu'on prend à la maison, en réalité, c'est là que ça se passe.
Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Non, mais c'est la maison, deux, l'école.
Mais oui.
Mais le problème, c'est que quand on entend les députés, c'est l'école et la maison.
Et l'école. Oui, voilà. Ok, d'accord.
Alors, on a fait une petite consulte quand même sur le compte des X annonces, des grandes gueules. Éducation à l'alimentation. Faut-il apprendre à manger à l'école? Vous dites non à 61,9%. C'est le rôle des parents. Dans un instant, je vous propose, avant de conclure, de refaire un point sur l'enquête concernant Quentin, ce qu'il y a de nouveau. Il y a de nouvelles interpellations. Et puis, il y a aussi une alerte à la bombe à la France Insoumise. C'est ce que vient de dire Manuel Bompard. Et puis aussi certains qui commencent à dire, attendez, c'est trop facile de cibler uniquement les insoumis. La jeune garde a été soutenue par toute la gauche. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé avec Didier Giraud, Joël Dagossiri et Zora Bitan. On va faire un point sur l'enquête qui se poursuit concernant la mort de Quentin Derenque, mort à Lyon, lynché par des militants de l'ultra-gauche. Il y a désormais 11 personnes interpellées. Un couple vient d'être interpellé, un garçon, une fille. Parmi ces 11 personnes, il y a a priori les 6 qui avaient été identifiés, ceux qui ont vraiment frappé à terre le jeune Quentin Derenque, 23 ans, et qui l'ont tué. Et puis parallèlement, la France Insoumise nous informe qu'une alerte à la bombe a été lancée contre le siège de LFI à Paris. Alors, il n'y a pas eu de bombe, voilà. Et la dernière info également, c'est que du côté du Parti Socialiste, en tout cas dans la bouche de François Hollande, c'est la rupture avec la France Insoumise. Tout d'abord, l'enquête, elle progresse. 11 personnes, désormais en garde à vue. La plupart membres de la jeune garde, donc proches de Raphaël Arnaud, le député insoumis à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, on posait la question de sa démission. Depuis, on apprend qu'en fait, la jeune garde avait travaillé aussi pour Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier, elle-même, c'est la chef de file des Verts, avait signé une tribune de soutien à la jeune garde lorsque la jeune garde a été dissoute. Donc, est-ce que c'est pas un problème, finalement, pour toute la gauche, cette histoire? Là, on cible beaucoup Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné que la gauche se pose des questions sur peut-être le fait que dernièrement elle s'est assez radicalisée, elle s'est beaucoup tournée vers son extrême gauche plutôt que vers son centre?
Ah bah oui, moi j'ai été 20 ans au PS et j'observe que cette dernière décennie, le Parti Socialiste ne s'est absolument pas posé la question d'où en étaient ses idées et qu'est-ce qu'il défendait vraiment, ils n'ont pas basculé sur la social-démocratie et ils ont, par facilité, emprunté la soumission à la France insoumise. On a eu le nouveau Front populaire, ensuite on a eu la NUPES et ensuite le nouveau Front populaire. Et fort de 1,5% d'Anne Hidalgo au présidentiel, en fait, ils se sont pas remis en cause. En fait, c'est une bande de fainéants qui bosse plus, qui s'est assis sur ses acquis de Jaurès et de Clémenceau il y a des décennies, et qui considère que ce matelas leur suffisait. Moi, je les ai connus, ils bossent pas, à part faire des congrès où ils se massacrent entre eux, à part avoir une horde d'apparatchiks qui cherchent la lumière et le pouvoir. Ils ont trouvé une maison que Jean-Luc Mélenchon leur a ouvert et leur a dit venez. Ils y sont allés en leur âme et conscience. Ce n'est pas une erreur. Ils se sont pas trompés. Ils ont trempé dans l'idéologie du LFI. Depuis le 7 octobre, il y en a qu'un seul qui s'est élevé, c'est Jérôme Guedj. Tout le reste, Olivier Faure en tête, a continué à soutenir LFI. Et aujourd'hui, il y a un mort et on s'aperçoit non pas que la mort de Quentin soit pas très grave, mais on s'aperçoit quand même qu'on arme idéologiquement, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a changé de registre dans la démocratie. C'est une démocratie qui invite et qui incite à en découdre physiquement. Et là, on a totalement changé de registre. Et là, qu'est-ce que se dit le Parti Socialiste? Que 90% des Français vont, pour eux, ça va être insupportable. Et donc, on se retire. Eh bien, écoutez, vous allez payer l'addition comme tout le monde. Donc, ça vous redonnera absolument pas plus de crédibilité. Ouais. C'est mort.
Je rappelais que la maire socialiste d'Avignon s'était félicitée de la victoire de Raphaël Arnaud le soir de son élection.
On peut faire un reportage, un film.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui.
J'attends de voir les prochaines grosses élections pour voir si effectivement...
Dans 4 semaines, il y a les municipales. Hein.
Voilà, déjà, comme l'a dit Zora, il y a des listes quand même qui sont communes.
Les listes, elles sont déposées. Hein.
J'attends de voir à la présidentielle, aux législatives, qui est qui, et si vraiment cette séparation qu'on nous annonce là avec fracas sera effective. Parce qu'il y a un truc que sait bien faire la gauche, c'est se rassembler. Donc voilà, c'est quand même leur spécialité. Donc moi j'attends de voir si vraiment ce sera ça. Ensuite, je pense qu'il faut quand même que tout le monde se calme, parce que là, les alertes à la bombe par-ci, par-là, la justice s'est saisie du dossier.
Il faut arrêter de
jeter de l'huile sur le feu. La justice est en train d'arrêter des suspects. Donc ça avance, voilà, ça avance plutôt bien apparemment. Donc on est content. Il faut que tout le monde se calme et que LFI, encore une fois, LFI doit prendre ses responsabilités.
Mais Jean-Luc Mélenchon continue à défendre bec et ongle.
Si Raphaël Arnaud engage dans ses équipes, parce que moi j'aime pas trop cette respectabilité de façade, c'est-à-dire qu'on est élu, on est respectable, et dans les arrière-cuisines, on a des gens peu recommandables. Je suis désolée, non.
Pareil pour le
RN, parce que ces gens peu recommandables, ils sont payés avec nos impôts. Ces assistants parlementaires qui sont à la Jeune Garde ou je ne sais où, ils sont payés avec nos impôts. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pour payer soit des factieux, soit des cogneurs de rue ou etc.
Didier Giraud.
Moi, je crois que... Alors, oui, je souscris à peu près à ce qu'a dit Zora. Je crois que maintenant... tout jeu pour LFI, ça sera d'en faire des caisses. S'il y a vraiment eu une alerte à la bombe, je pense qu'ils vont en faire des caisses là-dessus.
Il y a vraiment eu une alerte, mais il n'y a pas de bombe.
Non, mais qu'il y ait des gens dans les rangs de LFI qui vont essayer de se faire passer pour les victimes maintenant, je te l'annonce. Je te l'annonce, c'est couru d'avance. Après, derrière ça, les liens qu'il peut y avoir entre la gauche, on va dire, plus modérée et LFI... bien fait pour leur gueule, moi j'ai envie de dire quoi.
Que
Marine Tondelier vienne se désolidariser aujourd'hui, mais j'en ai rien à foutre. Si elle a signé la tribune le jour où on a dissous cette faction, bah, à un moment donné, tant pis pour elle quoi. Hein, elle l'a signé. Quand t'es chef de parti, à un moment donné,
tu sais
que tu seras rattrapé par ton
parti. Le problème,
quoi.
C'est que la moitié du groupe écologiste est divisée. Il y a une bonne partie des députés écolos qui ne seraient pas députés si les insoumis n'avaient pas passé un accord avec eux.
Donc c'est
un vrai souci. Et il y a effectivement aujourd'hui des députés socialistes qui sont en poste.
Mais qui n'auraient jamais été élus.
Parce qu'il y avait cet accord à gauche. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, certains pensent qu'ils il est temps pour le, notamment les socialistes, de rompre cet accord, mais ils prennent un risque électoral.
S'il n'y avait pas eu ce nouveau fonds populaire, je pense que Jordan Bardella serait premier ministre. S'il n'y avait pas eu ce nouveau fonds populaire, on est d'accord. Le raz-de-marée Rassemblement National aux dernières législatives, il aurait été jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, venir faire les pleureuses à la Hollande en disant la rupture est consommée, plus jamais nous nous mettrons avec des gens comme ça, c'est quand même complètement faux cul, parce que les listes aux municipales qui sont fusionnées, elles sont posées déjà.
Merci à tous. On verra les suites de cette enquête et les conséquences politiques de cette affaire. Estelle Denis nous rejoint. Estelle Midi, à partir de midi sur RMC. Le débat continue avec vous au 32-16. Bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. Eh bien, on va continuer, nous, à parler, bien sûr, des suites de la mort de Quentin. Sébastien Lecornu qui appelait les filles à faire le ménage. Est-ce que c'est la fin de la France insoumise? Eh bien, écoutez.
Carrément.
Carrément. Est-ce qu'ils vont réussir à se relever de ça? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Et vous pouvez, bien sûr, y répondre au 32-16. On va parler également de la hausse des incivilités en avion. Il y a deux passagers, là, qui ont été bannis à vie d'une compagnie battus en plein vol.
Ah, ils se battent.
Et à cause de quoi, à votre avis, il y a des incivilités?
Le café était pas assez chaud?
Non, à cause de l'alcool. Faut-il interdire l'alcool en avion?
Oui.
Eh bien, c'est la question qu'on va vous poser à midi et demi. Cette étude d'Elab sur les jeunes ne sont pas bien dans leur basket. Ils sont déprimés, ils sont démotivés, ils sont surendettés. Mais est-ce que la génération Z, c'est pas la génération ouin-ouin?
La génération O, alors.
Mais écoutez, on en débattra, en tout cas, avec vous à 13h30.
Que des bons sujets.
Mais tout à fait. Et attendez, vous n'avez pas entendu notre dernier sujet. Nous allons parler de vacances. Bah oui, vous savez que ce sont les vacances de février en ce moment. Et ce qui cartonne aujourd'hui, ce sont les vacances all-inclusive, les vacances tout compris.
On n'a rien à faire.
Mais voilà.
C'est pas nouveau, ça.
Mais est-ce que pour vous, c'est plus 10 à 15% en 3 ans.
Ah, oui.
Énorme carton. Est-ce que pour vous, les vacances all-inclusive, c'est l'enfer ou le paradis?
C'est souvent moins cher.
Ça dépend où tu vas.
Surtout bien quand t'as des enfants, tu les mets au club enfant et puis c'est tranquille.
Donc on part en vacances avec tes enfants, tu ne les vois pas.
Tu les vois déjà toute l'année.
Non, tu les vois pas, ils sont à l'école.
D'accord, mais le soir tu les vois.
Fallait pas les faire en fait.
Oui, et toi,
en fait, fallait pas les faire.
Mais moi, mes enfants payent ta retraite. Enfin, Didier, je les ai fait pour toi.
Ah, uniquement pour ça.
Eh ben oui. Et alors?
J'espère qu'il t'écoute là.
Mais si tu pars pas en all inclusive,
t'es insolente, Estelle.
Mais non, pas du tout.
Le tu préfères?
Écoutez, on n'a pas eu le temps de le faire hier.
Ah, voilà.
Donc, on a recyclé.
On te l'aurait fait.
On est écolo. Dans Estelle Midi, on recycle les tu préfères. Donc, vivre en appart ou vivre en maison.
Tout à l'heure,
14h.
On a déjà répondu. Allez, bon débat à tous. Et rendez-vous demain à Marseille.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.